Oh, clown, le truc du cheval, c'était pas drôle. Dolorès, à plat ventre sur le cheval mort au milieu de l'allée, poussait des hurlements en agitant frénétiquement ses membres nus. Cette fois, Ignacio l'ignora. Il continua d'avancer, accompagné des 10 policiers, mais avant de leur réitérer ses arguments, il prit le temps de s'adresser à Juan Diego. Si t'as tellement de couilles, toi, le marcheur au plafond, qu'est-ce que t'attends? C'est pour quand le numéro à 25 mètres du sol? Je pense qu'on devrait t'appeler Petite Couille. Ou pourquoi pas Magnana? C'est un nom à prendre, dit-il en montrant le cheval mort. Il va t'aller comme un gant, à toi qui remets sans cesse la marche céleste à deux mains. Dolorès s'était remise sur pied, sa serviette de bain tachée par le sang du cheval. Avant de retourner à la tente des acrobates, elle balança deux claques sur la tête de Paco et de Grabidon, les traitant de petits dégueulasses. Plus gros que les tiens, marmonna Grabidon une fois qu'elle les eut plantés là. Plus petit, insista Paco, imperturbable. Ignacio et les 10 policiers s'étaient éloignés en pleine algarade, le dompteur monopolisant la parole. Si j'ai besoin d'un permis pour me débarrasser d'un cheval mort, je n'aurai pas à en réclamer un pour dépecer l'animal et le donner à manger à mes lions, hein? Sans attendre leur réponse, il poursuivit. Vous n'allez tout de même pas m'ordonner de trimballer ce cheval mort jusqu'à Huachaca. J'aurais très bien pu le laisser agoniser dans le cimetière. Vous n'auriez pas apprécié, j'imagine. Oublie la marche céleste, frère de Lupe, dit Paco à Juan Diego. Lupe a besoin de toi, tu dois veiller sur elle, renchérit Grabidon. Les deux nains s'éloignèrent en se dandinant. Il y avait encore des douches intactes. Ils allèrent s'y laver. Juan Diego pensait être seul avec Magnana dans l'allée des tentes. Il n'avait pas remarqué Lupe auprès de lui. Il devina qu'elle était présente depuis le début. Tu as vu? Lui demanda-t-il. J'ai tout vu. Juan Diego acquiesça. Pour le nouveau numéro des chiens savants, commença Lupe avant de s'interrompre comme si elle attendait qu'il saisisse où elle voulait en venir. Elle avait toujours une ou deux longueurs d'avance sur lui. Oui, quoi? Je sais où tu peux trouver ton chien, celui qui n'aura pas peur de sauter. Ils avaient ressurgi et l'avaient submergé, les rêves et les souvenirs que les bêta-bloquants avaient rayés de sa mémoire. Durant ces 2 derniers jours à l'Encantador, Juan Diego avait pris ses comprimés de l'oppressor en respectant la prescription médicale. Le docteur Quintana dut se rendre compte qu'il ne faisait pas semblant. Le retour d'une certaine torpeur, d'une baisse de vigilance et d'activité physiologique n'avait échappé à personne. Il nageait en chien dans la piscine où il ne risquait pas de marcher sur des oursins et prenait ses repas à la table des enfants. Il s'entourait de Consuelo et de Pedro, ses compagnons de messe basse. Tôt le matin, en buvant son café près de la piscine, Juan Diego relisait ses notes ou en prenait de nouvelles sur une chance unique de quitter la Lituanie. Il était retourné à Vilnius 2 fois depuis son premier séjour en 2008. Raza, son éditrice, avait trouvé une informatrice au Service national de protection des droits de l'enfant et de l'adoption. Lors de leur premier entretien, il était venu avec Daïva, son interprète, mais la femme parlait un anglais parfait et se montra très coopérative. Elle s'appelait Odetta. Comme cette femme mystérieuse qui avait mis une annonce sur le panneau d'affichage de la librairie et qui n'était pas une fiancée en vente par correspondance. La photo et le numéro de téléphone avaient disparu du panneau des liseuses, mais cette Odetta hantait toujours Juan Diego. Son mal de vivre refoulé et pourtant perceptible, les cernes sous ses yeux de lectrice nocturne, sa coiffure négligée. N'y avait-il toujours personne autour d'elle pour échanger ses impressions sur les beaux romans qu'elle avait lus? Une chance unique de quitter la Lituanie avait bien sûr évolué dans le temps. La lectrice n'était plus une fiancée en VPC. Elle avait placé son enfant dans un centre d'adoption, mais le processus long et complexe n'avait pas abouti. Dans le roman, la femme souhaite que son bébé soit adopté par des Américains. Elle qui a toujours rêvé d'aller aux États-Unis, elle veut bien faire don de son bébé pourvu qu'il soit heureux en Amérique. Odetta, du service des droits de l'enfant, avait expliqué à Juan Diego que les enfants lituaniens étaient rarement adoptés par des étrangers. On avait mis en place une période de latence particulièrement longue, afin de laisser aux mères biologiques le temps de changer d'avis. La législation était très stricte. Au moins 6 mois pour une décision internationale, sachant que la période d'attente pouvait durer 4 ans. Les étrangers ne pouvaient donc plus adopter des nourrissons. Dans une chance unique de quitter la Lituanie, le couple américain qui attend la fin de la procédure d'adoption d'un enfant lituanien vit une tragédie personnelle. Alors qu'elle circule à vélo, la jeune femme est tuée par un chauffard qui prend la fuite. Veuf, le mari n'est pas en état d'adopter l'enfant tout seul. Dans les romans de Juan Diego, les personnages sont des marginaux, chacun à sa manière. Ils se sentent étrangers dans leur propre pays. La jeune lituanienne, qui a eu par 2 fois la possibilité de se raviser, se voit offrir un 3e sursis. L'adoption est en suspens. Elle se trouve désormais face à une nouvelle et douloureuse période d'attente. Elle dépose une annonce avec sa photo et son numéro de téléphone sur le panneau d'affichage de la librairie. Elle prend des cafés ou des bières avec d'autres lectrices. Elle parle des romans qu'elles ont lus, des chagrins innombrables qui sont les leurs. La rencontre décisive, on la voit venir, pensait Juan Diego. Le mari veuf se rend à Vilnius. Il ne s'attend pas à voir l'enfant que lui et sa défunte femme se préparaient à adopter. Il ne connaît même pas le nom de la fille mère qui a entrepris la procédure d'abandon. Il n'est pas censé rencontrer qui que ce soit. Il espère cependant s'imprégner de l'atmosphère de cette âme que leur enfant adoptif aurait pu emporter avec lui en Amérique. À moins que ce séjour à Vilnius ne soit pour lui une manière de renouer avec la disparue, de la faire vivre encore un peu. Évidemment, il se rend à la librairie. En proie au décalage horaire, il pense que la lecture d'un roman l'aidera à dormir. Et là, sur le panneau d'affichage, il découvre la photo de la jeune lituanienne, un visage qui veut cacher sa tristesse et la trahit tout à la fois. Sa mise négligée l'attire. Et d'ailleurs, l'écrivain qu'elle dit préféré est aussi celui que préférait sa femme. Ne sachant pas si elle parle anglais, il demande au libraire de l'aider à l'appeler. Et après, voici que se pose de nouveau la question première. Une chance de quitter la Lituanie, mais pour qui? La coïncidence a quelque chose de prévisible. Ils se rencontrent, ils se découvrent, ils deviennent amants. Mais que font-ils de leur destinée? Restent-ils ensemble? Récupère-t-elle son enfant? Partent-ils tous les trois en Amérique? Ou bien le veuf reste-t-il au contraire à Vilnius avec cette mère et son enfant? Couchée dans l'obscurité du petit appartement de la jeune femme, elle dort dans ses bras, elle n'a jamais dormi aussi profondément depuis des années. Il réfléchit. S'il doit quitter cette femme et repartir seul aux États-Unis, il doit le faire sans plus attendre. Ce que le lecteur ne doit pas voir venir, c'est que cette chance unique de quitter la Lituanie qui donne son titre au roman est peut-être celle de l'Américain, sa dernière chance de changer d'avis et de repartir. Vous êtes en train d'écrire ? Demanda Clark French à son ex-professeur. Il était encore tôt et il avait surpris un cahier et un stylo dans les mains à la piscine de l'Encantador. Vous me connaissez, ce sont seulement des notes préparatoires. J'appelle ça écrire, dit Clark d'un ton catégorique. Il trouvait naturel de demander à Juan Diego où en était son prochain roman, et celui-ci ne voyait pas d'inconvénient à lui parler d'une chance unique de quitter la Lituanie, de l'idée qui avait fait naître le roman et de son évolution. Il s'agit d'un pays catholique, déclara soudain Clark. Oserais-je vous demander quel rôle scélérat joue l'Église dans cette histoire? Juan Diego ne parlait pas du rôle de l'Église. Il n'y avait même pas pensé. Pas encore. Mais bien sûr, l'Église aurait sa place dans le roman. Le professeur et son ancien élève le savaient parfaitement. Tu connais aussi bien que moi le rôle que joue l'Église dans la question des enfants non désirés, et d'abord sur la cause des naissances d'enfants non désirés. Il s'interrompit. Il voyait que Clark avait fermé les yeux. Il fit de même. Chaque fois qu'il parlait de religion, il se retrouvait dans une même impasse démoralisante. Autrefois, lorsque Clark employait le pronom « nous », cela ne voulait jamais dire « vous et moi ». Il disait « nous » en particulier quand il essayait de se montrer progressiste ou tolérant. Nous ne voudrions pas être aussi rigides sur des problèmes comme l'avortement, les méthodes de contraception ou le mariage gay. L'enseignement de l'Église Et là, il hésitait toujours avant de...